plus de RFI sur RFI.fr.
Plus d'informations sur les programmes, sur les fréquences, sur les émissions de RFI. Plus d'actualités, plus de musique et d'infos musicales. Plus d'exercices pour apprendre et enseigner la langue française. Plus d'informations sur le groupe RFI. RFI.fr, le portail internet du groupe RFI, entièrement à votre service.
Élan, Benson Diakité.
Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie du magazine Élan sur RFI. Une troisième partie consacrée à la question de coopération décentralisée. En compagnie de Mohamed Sylla, coordinateur de l'association Ardèche Drôme Ouro-Sougui au Sénégal, nous irons à Matam au Sénégal pour tenter de comprendre le fonctionnement de cette coopération décentralisée et son impact sur le développement local. Mais avant de retrouver notre invité, nous vous proposons un détour chez les Laotiens de France, une communauté qui souhaite participer au développement économique de leur pays. Mais mission presque impossible, car les liens entre cette diaspora laotienne de France et le pouvoir local sont assez ambigus. Du moins, c'est ce qu'affirme Surya Pravok, immigré laotien, fondateur du site laosfr.net. Il est au micro d'Éric Gomis, Surya Pravok.
Le lien entre la diaspora laotienne et le pays actuellement est assez ambigu parce que nous, les Laotiens, on est partis du Laos en 1975 parce qu'il y a un changement de régime et on a fui le communiste. Maintenant, ça fait 31 ans. Et on n'a pas la reconnaissance par le gouvernement laotien de notre statut de diaspora et depuis 1990, le Laos s'est ouvert. Mais bon, il y a des contacts entre les membres de la famille, bien sûr. Il y a des envois d'argent pour aider la famille à rester la tête hors de l'eau, en quelque sorte. Et le discours des gouvernements de la RDPL, République démocratique populaire Lao, est de dire que vous pouvez retourner au Laos pour rendre visite à la famille, par exemple. Et ça se limite là. Il n'y a pas vraiment de politique de reconnaissance de la diaspora pour utiliser cette capacité humaine de la diaspora pour développer le pays et sortir le Laos, qui est un des pays les plus pauvres du monde, de la pauvreté. Et là, c'est un vrai problème. Je vois mal comment le Laos, qui a l'objectif en 2010 d'éradiquer la pauvreté, peut atteindre cet objectif sans l'aide de la diaspora laotienne, qui représente maintenant un cinquième de la population laotienne. Bon, j'ai réussi à créer un des sites pour la communauté laotienne le plus visité de France. Donc c'est ça, j'espère, à partir de là, créer une dynamique pour la reconnaissance de la communauté laotienne en France par le gouvernement du Laos. La diaspora laotienne est consciente de ses potentialités, mais si vous n'avez pas de reconnaissance politique de la part de la RDPL, vous n'osez pas faire grand-chose. C'est cette reconnaissance qui va amorcer, je pense, un début de dialogue et puis un début de vraies possibilités de développement du pays.
Surya Pravok, de la communauté laotienne en France, est fondateur du site laosfr.net. Le magazine est lent, toujours au cœur du développement et de l'environnement en Asie, en Amérique latine et en Afrique. C'est à ce titre que nous partons aujourd'hui au Sénégal pour parler de coopération décentralisée, une notion qui englobe toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat noué entre les collectivités locales françaises et les collectivités équivalentes d'autres pays. À Matam, au nord-est du Sénégal, la coopération décentralisée trouve toute son expression dans la mise en place d'un programme de développement local autour des projets initiés par les populations locales. Quelle est l'articulation de cette coopération décentralisée? Réponse de Mohamed Silla, il est coordinateur de l'ARDOS, l'association Ardèche Drom Ourossogui Sénégal à Matam. Monsieur Silla.
Cette coopération décentralisée consiste à mettre en lien des collectivités locales du Nord et du Sud. Donc c'est un soutien apporté par les collectivités locales du Nord à des collectivités locales du Sud. Ça s'appuie sur des priorités définies localement par les collectivités locales sénégalaises, donc de Matam, qui réfléchissent sur leur propre développement, qui analysent leur milieu, leurs ressources, leurs potentialités et leurs problèmes, et à partir de là développent leur propre stratégie. Et une fois que tout cela s'est calé, ils ont certainement besoin de soutien de l'extérieur, au plan financier, au plan technique, et c'est là où intervient la coopération décentralisée qui vient en complément d'une mobilisation des ressources locales et pas en substitution de ces ressources-là.
Alors, quelles sont aujourd'hui les demandes de ces départements de Matam?
Alors, il y a vraiment une première étape de réflexion, parce que c'est vraiment, on a dépassé vraiment la phase où on venait parachuter les projets, où on réfléchissait à la place des populations. Donc, il y a une première étape d'organisation, d'appui à la réflexion, où les gens, par rapport aux ressources locales, par rapport aux problèmes, leur vécu, réfléchissent sur des problèmes et réfléchissent sur des solutions. Donc, les solutions sur lesquelles on débouche varie d'une collectivité locale à une autre. Il y a certaines collectivités locales, le cas de Ourossogui par exemple, je vous prends l'exemple de Ourossogui qui est une commune de la région de Matam où il y a une priorité très claire en matière de santé, où la municipalité a construit avec l'appui du département de l'Ardèche une maternité, et bien parce que tout simplement cette commune était confrontée à une forte mortalité maternelle, donc aujourd'hui qui a considérablement baissé par la construction de cette maternité, le fait d'avoir offert à ces populations-là des soins de santé primaires.
L'ADOS, association de coopération décentralisée, mais que fait alors l'ADOS au Sénégal? Je vois qu'il y a l'environnement, il y a l'éducation, il y a l'économie. Alors, en matière d'environnement, qu'est-ce que vous faites ici au Sénégal?
Alors, au Sénégal, toujours dans la région de Matam, dans la communauté rurale de Sintou-Bamambé, là, il y a une coopération entre la communauté de communes du Val de Drôme, qui est une communauté de communes en France qui a une forte expérience en matière de gestion d'une rivière, qui est la Drôme. Alors, dans la région de Matam, il y a une rivière aussi qui pose d'énormes problèmes aujourd'hui, parce que c'est une rivière autour de laquelle s'était organisée la vie socio-économique d'un ensemble de villages qui compte aujourd'hui à peu près 5000 habitants. Et donc, cette vie socio-économique s'est complètement désorganisée suite à la dégradation naturelle et écologique de cette rivière. Donc ça a commencé depuis les années de sécheresse en 1972 avec la perte du couvert végétal, les problèmes de ravinement, il y a eu des phénomènes de perte de terre considérables. À partir de là, il y a eu une déstabilisation de l'organisation de la vie socio-économique de ces villages, donc qui partaient en immigration, soit à Dakar, dans les grandes villes à l'intérieur du pays, ou même à l'extérieur, en France ou ailleurs en Europe. Et je pense que ce programme que la CCVD, la communauté de communes, met en œuvre dans cette communauté rurale avec le soutien du ministère des Affaires étrangères français, apporte des solutions qui permettent de restaurer les conditions naturelles de cette zone. Donc en restaurant le fonctionnement hydraulique de cette rivière avec des traitements qui consistent en une lutte biologique, donc essayer de restaurer le couvert végétal avec de la replantation, de la reforestation, de la mise en défense, mais également avec une lutte mécanique, fabriquer des ouvrages de retenue d'eau, des digues, des barrages, des diguettes. Voilà, l'objectif étant, à terme, de restaurer le fonctionnement normal hydraulique de cette rivière et par conséquence, voir les incidences dans la vie pastorale, dans la vie agricole et par conséquence dans la vie économique de la zone.
Collectivités locales sont devenues depuis quelques années des acteurs incontournables des relations internationales, particulièrement dans la coopération décentralisée basée sur la solidarité avec les pays du Sud. Cette décentralisation, qui est une démarche d'appui aux collectivités afin de les aider dans la création de leurs programmes de développement local, est essentielle aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit des zones rurales comme celle de Matam au Sénégal. Mohamed Sylla.
La région de Matam, effectivement, est une région à vocation agricole et pastorale. Et on a mis en place un programme. Donc là, c'est l'ADOS qui a porté ce programme avec le soutien du ministère des Affaires étrangères. Un programme d'appui à des producteurs, à surtout les petits producteurs agricoles. Parce que le principal problème des producteurs de cette zone, c'est le fait qu'ils n'ont pas accès à des financements pour faire face aux besoins d'investissement. Parce que il y a l'agriculture de subsistance qui permet de récolter derrière la maison, d'avoir de quoi vivre. Mais à côté de cela, les gens ont besoin de cultiver, de récolter pour vendre une agriculture de rente. Et ça, c'est une autre dimension. Ça demande d'autres moyens. Donc le problème d'investissement s'est posé. On a mis en place un fonds d'appui aux initiatives locales agricoles qui est complètement géré par les acteurs, où on a constitué un comité d'octroi qui était composé exclusivement, nous on n'était même pas membres, c'est les agriculteurs qui étaient membres de ce comité d'octroi, qui recevaient les projets d'autres organisations de producteurs, donc les analyser et décider s'ils les finançaient ou pas. Donc principalement, c'est l'investissement qui vise un peu à régler les problèmes d'accès à l'eau, de sécurisation des parcelles de culture, et également de constituer des fonds de roulement pour acheter des intrants. Et voilà.
On sait également que dans la plupart des pays africains, les femmes jouent un rôle très important dans l'économie informelle, dans les produits de subsistance. Alors, est-ce que votre aide aussi va vers ces femmes qui sont généralement des actrices très importantes dans les villages?
Tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure de producteurs. En réalité, il y a peu d'hommes dans ces producteurs. Les parcelles, c'est une région, malheureusement, où les hommes sont principalement tournés vers l'exode et l'immigration. Donc, ce qui fait que dans les villages, la population active est essentiellement féminine. Donc, nous, le projet d'appui aux initiatives locales agricoles concerne essentiellement des femmes. Donc, il y a des parcelles pas grandes, hein, qui permettent à des femmes d'avoir une activité rentable, génératrice de revenus, mais des parcelles de 5 hectares qui sont gérées par des groupements de 200 femmes dans un village. Et on voit bien là que la gestion par les femmes des fonds apportés par la coopération est beaucoup plus efficace que d'habitude ce qu'on a vu jusque-là avec les hommes.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Élan sur RFI autour du sujet de la coopération décentralisée en compagnie de Mohamed Silla. Il est coordinateur de l'ADOS, l'association ADEF Drom Ourou Sogui au Sénégal. Coopération décentralisée donc pour un meilleur développement local dans les pays en voie de développement. Mais ce développement peut-il à la longue contribuer à endiguer l'exode rural, voire même la migration des jeunes vers les pays du Nord? Réponse de Mohamed Silla.
De façon immédiate, je peux pas dire oui, parce que c'est sûr que vu la dimension et l'ampleur des problèmes, parce qu'il faut peut-être rappeler que l'immigration a commencé pendant les années de sécheresse en 1970. Depuis 1970, les gens partent à la recherche de revenus pour faire vivre leur famille. Et ça, aujourd'hui, ça a pris une tendance assez lourde quand même. Si on veut l'infléchir, ça demande des moyens très conséquents. C'est vrai que l'apport de la coopération aujourd'hui est assez important, mais reste quand même modeste par rapport à l'ampleur du problème qu'on a. Il est vrai que par ailleurs, cette coopération permet quand même d'améliorer les conditions locales petit à petit en mettant en place des infrastructures sociales de base, en développant des activités économiques comme l'agriculture. Et cela permet à terme, eh bien, de créer les conditions locales où le territoire d'origine devient attractif et donc forcément, par conséquent, va fixer des gens. Moi, je pense que sur cette problématique d'immigration, c'est une question à traiter avec beaucoup de patience et non pas à s'attendre à financer une action tout de suite et s'imaginer que les gens vont rester sur place à cause de cette action.
Avez-vous le sentiment, en tant qu'acteur sur le terrain, que l'aide qui vient de l'extérieur est une solution au problème cruciaux qui se posent aujourd'hui, problèmes de développement, problèmes de santé, aux pays africains et surtout aux populations rurales?
Tout dépend de la façon d'aider. Moi, je pense que aujourd'hui, on est dans un monde quand même globalisé, même si la globalisation quand même, voilà, on peut en débattre à ses revers, mais on est obligé de s'ouvrir au reste du monde. Et il est évident qu'aujourd'hui, on a à prendre des choses ailleurs. On a besoin de l'extérieur. Mais la façon dont on doit avoir besoin de l'extérieur, je pense, mérite d'être précisée. Parce que une zone, une région ou des populations qui s'appuient essentiellement sur l'extérieur avec une logique d'assistance qui les met sous perfusion, donc qui tue l'initiative locale, je pense que une telle aide doit être tout simplement arrêtée et n'a pas sa raison d'être, en tout cas si on parle bien d'appui au développement. Par contre, quand on fait du développement, je pense qu'on doit s'appuyer essentiellement sur des ressources locales, que ça soit des ressources humaines, que ça soit des ressources financières, que ça soit des ressources matérielles, analyser les problèmes qu'on a ici, et c'est à partir de là seulement qu'on doit regarder de quoi on a besoin par rapport à l'extérieur, en attendant qu'on soit autonome. Je pense que l'aide doit s'inscrire dans cette dynamique tout en gardant à l'esprit qu'on a comme objectif l'autonomie et voilà de pouvoir se prendre en charge. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le développement. Voilà.
Je suis là, vous êtes jeune, vous appartenez à l'avenir de ce pays et de ce continent qui est le continent africain. Si vous avez un message aujourd'hui à l'endroit des politiques et même d'autres jeunes du continent, ce serait lequel?
C'est le message de l'espoir. Parce que de plus en plus, tu as le sentiment que les gens perdent l'espoir, ont comme unique perspective partir. Le seul message que j'ai à lancer en tant qu'Africain, c'est de dire que partout où on peut aller, on trouvera des conditions de vie, même si elles sont meilleures, mais qui sont bâties et fabriquées par des hommes. Donc il est tout à fait possible pour nous de fabriquer et de bâtir notre propre développement ici, parce que si on le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc c'est vraiment un message d'espoir, d'y croire et vraiment de s'engager là-dedans.
Un appel d'espoir à l'endroit de la jeunesse africaine en ce début d'année 2007, c'est aussi une invitation à faire de la coopération décentralisée une valeur sûre des actions de développement Nord-Sud. Remerciement donc à Mohamed Sylla, notre invité. Merci aussi à Dalé Biak du Cameroun, Deborah Galilio du Migration Initiative Économique, Jean Djema de la compagnie Black Blamber qui nous ont accompagnés durant cette émission, une émission préparée et réalisée par Stéphane Le Guenec avec la complicité technique de Valentin Vanner et Laurent Philippot. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.